Nécroscope de Brian Lumley. Septième partie. Été 1975. Trois années avaient passé depuis le dernier voyage de Dragozani dans son pays natal, et il restait encore une année avant que la chose ancienne dans le sol lui révèle comme promis ses secrets. Les secrets des Vampiri. En échange de quoi, Dragozani le ramènerait à la vie, ou plutôt, il la ferait accéder à une nouvelle non-mort, pour lui permettre d'arpenter le monde à nouveau. Trois années, et le nécromancien avait avancé à pas de géant, au point que sa position de bras droit de Gregor Borowitz paraissait à présent quasi incontestée. À la mort du vieil homme, Dragozani serait celui qui le remplacerait. Après cela, avec toute l'organisation ESP soviétique sous son commandement, et tout le savoir des Vampiri entre ses mains et dans son esprit, les possibilités devenaient immenses. Ce qui avait ressemblé jadis à un rêve impossible pouvait encore devenir une réalité. L'ancienne Valachie redeviendrait une nation puissante, la nation la plus puissante de toutes. Pourquoi pas avec Dragozani à sa tête? Un homme mortel ne peut réaliser que très peu de choses durant les brèves années de sa vie, mais un homme immortel pouvait accomplir absolument tout. Cette pensée fit une fois encore remonter une question que Dragozani s'était souvent posée. S'il était vrai que la longévité signifiait le pouvoir et l'immortalité le pouvoir suprême, alors pourquoi les Vampiri avaient-ils échoué? Pourquoi les vampires n'étaient-ils pas les chefs et les dirigeants de ce monde? Depuis longtemps, Dragozani avait plus ou moins trouvé une réponse, exacte ou erronée, il ne pouvait encore le dire. Pour l'homme, le concept même du vampire est insupportable. Si les hommes y croyaient, si on leur donnait la preuve irréfutable de l'infestation vampirique, alors ils traqueraient les créatures et les détruiraient. C'était ce qui s'était passé dès le commencement des temps, à l'époque où les hommes y croyaient vraiment, et cela avait limité le champ d'action du vampire. Il n'ose pas révéler sa vraie nature, ne doit pas être considéré comme différent, comme autre. Il doit contrôler de son mieux ses passions, ses désirs, sa soif innée du pouvoir que ses armes maléfiques, il le sait, peuvent lui apporter. Car détenir le pouvoir, qu'il soit politique, financier ou de n'importe quelle autre nature, implique nécessairement que l'on sera scruté et sondé, chose qu'un vampire redoute par-dessus tout. En effet, soumis à un examen minutieux, il est immanquablement découvert et détruit. Mais si un homme parvenait à contrôler les arts du vampire, un homme vivant et non une chose morte vivante, il ne serait pas soumis à de telles restrictions. N'ayant rien à cacher hormis son sombre savoir lui-même, alors il pourrait accomplir presque tout ce qu'il désire. C'était pour cette raison que Dragozani était venu une fois encore en Roumanie, conscient du fait que ses fonctions l'avaient tenu éloigné bien trop longtemps. Il désirait parler de nouveau au vieux démon et lui offrit de petites faveurs afin d'apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre avant l'été suivant, quand le moment convenu arriverait. Le moment convenu, oui, quand tous les secrets du vampire seraient exposés devant lui, aussi révélateurs qu'un cadavre éviscéré. Trois années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'il était venu ici, et elles avaient été très chargées. Pour Dragozani en tout cas, car durant toute cette période, Gregor Borowitz avait poussé tous ses ESPR, y compris le nécromancien, jusqu'aux limites de leur capacité. Il le devait, bien sûr, afin de s'assurer que durant les quatre années que Léonid Brejnev lui avait accordées, et dont lui-même devait tirer profit, son service deviendrait si solidement enraciné qu'il serait indispensable. Et de fait, le premier secrétaire avait en effet vu qu'il était absolument indispensable. Qui plus est, c'était le plus secret de tous les services secrets, et de loin le plus indépendant, le but suprême de Gregor Borowitz. Grâce aux annonces faites par ce dernier, Brejnev avait été totalement préparé à la disgrâce de son ancien partenaire politique Richard Nixon aux USA. Et alors que le Watergate aurait pu mettre en difficulté ou même ruiner la carrière de bien d'autres premiers secrétaires russes, Brejnev était parvenu à en retirer quelques profits, mais uniquement grâce aux prédictions de Borowitz, ou plus exactement d'Igor Vladi. Brejnev lui avait dit à l'époque « Dommage que Nixon n'était pas eu pour travailler à ses côtés, n'est-ce pas Gregor ?» De la même façon, comme cela avait été également prédit, le premier secrétaire se trouvait à présent dans une position très avantageuse pour négocier avec la doublure présidentielle, au mieux un incapable, et avant la chute de Nixon, dès 1972, sachant à l'avance que des Américains purs et durs allaient arriver en force. Brejnev avait suivi les conseils de Borowitz et signé des accords sur les satellites avec les USA. En outre, l'avance de l'Amérique dans la technologie spatiale était telle qu'il s'était empressé dans la foulée d'apposer sa signature sur le protocole de ce qui constituait le coup ultime de sa carrière. Skylab, entreprise commune dans l'espace, qui aboutissait en ce moment même. De fait, le premier secrétaire soviétique avait pris de telles initiatives, et bien d'autres encore, dont l'expulsion de nombreux dissidents et le rapatriement des juifs, en se fondant sur les suggestions ou les prévisions du service ESP, et chaque décision qu'il avait prise jusqu'à maintenant avait été une réussite totale, qui ne faisait que renforcer sa position déjà confortable de leader. Brejnev devait une grande partie, sinon l'intégralité, de son succès à Borowitz et à son service. Si bien qu'il avait été ravi d'honorer l'accord qu'il avait passé avec ce dernier en 1971. Ainsi, tandis que Brejnev et son régime prospéraient, Grégor Borowitz prospérait lui aussi, de même que Boris Dragozhani, dont la loyauté envers le service semblait incontestable. Et de fait, elle était incontestable, pour le moment. Toutefois, bien que Grégor Borowitz ait assumé la continuité des activités de son service et soit monté dans l'estime de Léonid Brejnev, ses relations avec Youri Andropov s'étaient détériorées de façon inversement proportionnelle. Les deux hommes n'en étaient pas au stade d'une hostilité déclarée, mais Andropov était toujours aussi secrètement jaloux et intrigant. Dragozhani savait que Borowitz continuait à surveiller Andropov de près. Ce que le nécromancien ne savait pas, c'est que Borowitz le surveillait lui aussi. Oh, il ne faisait pas l'objet d'une véritable surveillance, mais il y avait quelque chose dans son attitude qui préoccupait son patron depuis quelque temps. Il avait toujours été arrogant, voire insubordonné, et Borowitz avait accepté cela et y prenait même un certain plaisir. Mais là, il s'agissait d'autre chose. Borowitz suspectait Dragozhani d'être ambitieux, ce qui était très bien, tant que le nécromancien ne le devenait pas trop. Dragozhani avait également noté ce changement en lui, malgré le fait que l'une de ses plus vieilles inhibitions, son plus grand trouble psychique, ait disparu à présent. Il était devenu encore plus glacial, si tant est que cela soit possible, envers les membres du sexe opposé. Quand il prenait une femme, il le faisait invariablement avec brutalité. Peu d'amour, voire pas du tout, c'était simplement un moyen de libérer les pulsions émotionnelles et physiques refoulées en lui. Quant à l'ambition, il avait parfois du mal à contrôler sa frustration et attendait impatiemment le jour où Borowitz ne se trouverait plus sur son chemin. Le vieil homme n'était plus à la hauteur de sa tâche. Il était gâteux et sur le déclin. En fait, ce n'était pas le cas, mais l'énergie de Dragozhani était telle, l'accélération rapide de son développement tant sur le plan du dynamisme que du tempérament, qu'il avait cette impression. Et c'était notamment pour cette raison qu'il était cette fois revenu en Roumanie, afin de demander conseil à la chose dans le sol. Car, que cela lui plaise ou non, Dragozhani avait commencé à voir le vampire comme une sorte d'image du père. À qui d'autre pouvait-il parler avec une confiance absolue de ses ambitions et de ses frustrations? À qui d'autre sinon au vieux dragon? Personne. D'un certain côté, le vampire était comme un oracle, mais de l'autre, il ne l'était pas. Contrairement aux déclarations d'un oracle, celle du démon ne permettait jamais à Dragozhani d'être sûr qu'il disait juste. Ce qui signifiait que, bien qu'il se soit senti de nouveau attiré ici en Roumanie, il devait être prudent dans ses tractations avec la chose dans le sol. Telles étaient entre autres les pensées qui lui traversaient l'esprit tandis qu'il suivait la route de Bucarest à Pitești dans l'ancien pays. Alors que sa Volga dépassait un panneau indiquant que la ville se trouvait à 16 km, il se rappela que 3 ans auparavant, il était sur la même route quand Borowitz l'avait rappelé de toute urgence à Moscou. Chose étrange, il n'avait plus pensé à la bibliothèque de Pitești jusqu'à aujourd'hui. Mais à présent, il se sentait de nouveau attiré par cet endroit et comptait bien y faire un saut. Il connaissait encore si peu de choses sur le vampirisme et les morts-vivants, et ce qu'il en savait n'était pas totalement fiable puisque ses informations lui venaient du vampire lui-même. Mais si une bibliothèque était le siège d'un savoir portant sur la région et ses légendes, alors c'était celle de Pitești, sans aucun doute. Dragozhani avait des souvenirs de cet endroit depuis ses années au collège de Bucarest. Le collège empruntait souvent à la bibliothèque de Pitești de vieux documents et des archives concernant l'histoire de la Valachie et de la Roumanie, car une grande partie des ouvrages historiques conservés à Ploiești et à Bucarest y avaient été mis en sécurité durant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concernait Ploiești, cela avait été une sage précaution, car les bombardements subis par la ville avaient été parmi les pires de la guerre. En tout cas, la plupart des documents n'avaient pas retrouvé leur musée, leur bibliothèque d'origine et étaient restés à Pitești depuis lors. Ils y étaient toujours, voilà 18 ou 19 ans de ça. Par conséquent, la chose ancienne dans le sol pouvait attendre encore un peu le retour de Dragozhani. Il allait d'abord se rendre à la bibliothèque de Pitești, déjeunerait plus tard en ville et seulement après poursuivrait sa route vers le cœur de son pays natal. À 11h du matin, Dragozhani était arrivé. Il déclina son identité au bibliothécaire et demanda l'autorisation de consulter tous les documents concernant les familles de boyards, les terres, les batailles, les monuments, les ruines et les lieux de sépulture et aussi les archives relatives aux régions comprenant la Valachie et la Moldavie, et tout particulièrement cette région, datant du milieu du 15e siècle. Le bibliothécaire se montra très aimable et enchanté de lui prêter son concours. Mais une fois qu'il eut conduit son visiteur dans la salle qui abritait ses vieilles archives, Dragozani fut en mesure d'apprécier lui-même le côté amusant de la chose. Dans une salle aussi vaste qu'une grange, les rayonnages contenaient suffisamment d'ouvrages, de documents et d'archives pour remplir plusieurs gros camions de l'armée, et tous se rapportaient au sujet de ses investigations. Mais tout est catalogué, n'est-ce pas ?
Bien sûr, monsieur.
Il lui tendit une pile de catalogues dont la lecture, si Dragozani avait été disposé à envisager une telle tâche, aurait pris à elle seule plusieurs jours, sans qu'il soit même question de sortir l'un des volumes y étant répertorié de son rayonnage. Mais cela prendrait un an, voire davantage, pour tout examiner minutieusement.
Cela en est déjà pris 20, et uniquement pour établir ces catalogues, du moins en grande partie. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Car même si vous pouviez y consacrer autant de temps, vous n'en auriez pas l'occasion. Les autorités ont enfin pris la décision de tout rapatrier, mais beaucoup de ces documents vont retourner à Bucarest. Une grande partie est prévue pour Budapest et même Moscou a formulé une demande. Tout, presque tout sera déménagé au cours des 3 prochains mois.
Eh bien, vous avez raison. Je ne dispose pas de plusieurs années ni même de mois, mais seulement de quelques jours. Aussi, y aurait-il pas un moyen de limiter mes recherches ?
Ah, mais il y a aussi la question de la langue. Désirez-vous consulter des archives en turc, en hongrois, en allemand ? Vous intéressez-vous uniquement au monde slave, chrétien, ottoman ? Avez-vous des points de référence précis, des repères quant à ces questions ? Tous ces documents ici sont vieux d'au moins 300 ans, mais certains remontent à 7 siècles, voire davantage. Comme vous le savez certainement, la période centrale, qui semble être celle qui vous intéresse, couvre de nombreuses décennies de changements continuels. Il y a ici les archives des conquérants étrangers, oui, mais nous avons également les archives de ceux qui les ont repoussés. Êtes-vous en mesure de comprendre le texte de ces ouvrages ? Après tout, ils datent d'un demi-millénaire. Si vous pouvez les comprendre, alors vous êtes un érudit. Personnellement, je n'en suis pas capable, du moins pas avec une grande précision. Et pourtant, j'ai été formé pour cela. Monsieur, si vous pouviez être plus précis...
Dragozani ne vit aucune raison d'user de subterfuges. Je m'intéresse au mythe du vampire, qui semble avoir ses racines ici, en Transylvanie, en Moldavie et en Valachie, et remonte autant que je le sache au XVe siècle. Le bibliothécaire s'écarta de lui et son sourire disparut. Brusquement, il sembla circonspect.
Mais vous n'êtes pas touriste, à l'évidence.
Non, je suis d'origine roumaine, et maintenant je vis et travaille à Moscou. Et qu'est-ce que cela vient faire là-dedans ? Le bibliothécaire, de 3 ou 4 ans plus jeune que Dragozani et manifestement intimidé par son aspect presque cosmopolite, parut prendre en considération cette nouvelle. Il se mordilla la lèvre, fronça les sourcils et demeura silencieux un long moment. Puis, il dit finalement
« Si vous y jetez un coup d'œil, vous remarquerez que les catalogues sont en grande partie manuscrits et qu'il s'agit de la même écriture. Je vous ai déjà dit que cela représentait au moins 20 ans de travail. Eh bien, l'homme qui s'est chargé de cette tâche est toujours en vie et habite non loin d'ici, à Titou. C'est sur la route de Bucarest à une 40aine de kilomètres.
Je sais où c'est. J'y suis passé il y a moins d'une demi-heure. Vous pensez qu'il pourrait m'aider ?
Oh, oui. S'il accepte. »
La réponse du bibliothécaire semblait bien mystérieuse.
C'est que j'ai commis une erreur il y a 2 ou 3 ans. J'ai envoyé 2 chercheurs américains le voir, il a refusé de les recevoir et les a jetés dehors. C'est un original, vous comprenez. Depuis ce jour, je suis plus prudent. Nous avons beaucoup de demandes de ce genre, vous savez. Apparemment, ce truc de Dracula est une véritable industrie à l'ouest. Et c'est cet aspect commercial que M. Jireski désire éviter à tout prix. C'est son nom, en fait. Ladislao Jireski.
Êtes-vous en train de me dire que cet homme est un expert en vampirisme ? Qu'il a étudié les légendes et a reconstitué leur histoire grâce à des documents pendant 20 ans ?
Oh, entre autres choses. Oui, oui, c'est ce que je dis. C'est ce qu'on pourrait appeler un violon dingue, ou peut-être une obsession chez lui. Mais une obsession très utile pour la bibliothèque.
Alors je dois absolument le rencontrer. Cela pourrait me faire gagner beaucoup de temps et m'économiser de l'énergie.
Je peux vous indiquer son adresse et la route pour vous y rendre, mais il ne tiendra qu'à lui d'accepter ou non de vous recevoir. Cela pourrait faciliter les choses si vous lui apportiez une bouteille de whisky. C'est un grand amateur de whisky quand il peut s'en procurer. Mais du whisky écossais, pas cette saloperie qu'il fabrique en Bulgarie.
Donnez-moi juste son adresse. Il me recevra. Pas de problème, je peux vous l'assurer. Dragozani trouva l'endroit comme le bibliothécaire lui avait décrit, sur la route de Bucarest, à environ 2 kilomètres de Titou. Dans un petit lotissement de maisons en bois à un étage situé en retrait de la route. La demeure de Ladislao Jireski se remarquait aussitôt du fait de son relatif isolement. Toutes les maisons étaient entourées d'un jardin ou d'un lopin de terre qui les séparait de leurs voisines, mais celle de Jireski était située à l'écart des autres, à la limite du lotissement, perdue dans un bosquet de pins et de haies non taillées qui s'étendait au milieu d'arbustes et de broussailles. Le chemin pavé conduisant à la maison elle-même était rétréci du fait des haies qui bourgeonnaient et des plantes rampantes qui tendaient leurs vrilles sur les galets. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes et retournait lentement à l'état sauvage. La maison était visiblement attaquée par la pourriture sèche à un stade très avancé, et son aspect, pour le moins atypique, témoignait du manque quasi total d'entretien dont elle souffrait. En comparaison, les autres maisons étaient en bon état et les jardins bien entretenus. Toutefois, de petits efforts avaient été faits en matière de réparation, car ici et là, sur la façade de la maison, une vieille planche avait été enlevée et une neuve clouée à sa place. Néanmoins, même la plus récente de ces planches devait dater d'au moins 5 ans. L'allée menant de la barrière du jardin à la porte d'entrée était pareillement envahie par les mauvaises herbes, mais Dragouzani s'obstina et frappa au panneau dont la peinture écaillée, du moins le peu qu'il en restait, s'effritait. Il tenait dans une main un filet à provisions qui contenait une bouteille de whisky achetée au magasin de spiritueux de Pitesti, une miche de pain, un gros morceau de fromage et des fruits. La nourriture était pour lui, son déjeuner au cas où il ne passerait rien, et la bouteille comme cela lui avait été conseillé pour Jireski. S'il était chez lui. Tandis qu'il attendait, cette possibilité lui parut de moins en moins probable. Mais après avoir frappé de nouveau, plus fort cette fois, il entendit finalement du bruit à l'intérieur. Le personnage qui lui ouvrit la porte était un homme âgé d'une 60aine d'années, aussi fragile qu'une fleur séchée. Ses cheveux étaient blancs, pas gris, mais blancs, dessinant une crête enneigée sur la colline de son front. Et sa peau était encore plus pâle que celle de Dragouzani, et luisante, comme si on l'avait polie. Sa jambe droite était en bois, un vieux pilon qui contrastait avec les prothèses modernes. Mais l'homme semblait suppléer à cette infirmité avec une agilité plus que suffisante. Son dos était légèrement voûté et il se tenait délicatement l'épaule en grimaçant quand il la bougeait. Mais ses yeux bruns étaient vifs et perçants, et tandis qu'il demandait à Dragouzani ce qu'il désirait, son haleine était pure et saine. « Vous ne me connaissez pas, monsieur Jireski, mais on m'a parlé de vous, et ce que j'ai appris m'a fasciné. » Je suppose que l'on pourrait dire que je suis un historien qui s'intéresse tout particulièrement à l'ancienne Valachie. Et on m'a dit que personne ne connaissait l'histoire de ce pays mieux que vous. Eh bien, il y a des professeurs à l'université de Bucarest qui contesteraient cela. Mais pas moi. Il se tenait toujours sur le seuil, l'air perplexe. Mais Dragouzani nota que ses yeux bruns se posaient de nouveau sur le filet à provision et la bouteille. Du whisky. J'en bois volontiers une goutte de temps en temps et c'est difficile de s'en procurer à Moscou. Peut-être prendrez-vous un verre avec moi, pendant que nous parlons ?
Hein ? Qui a dit que nous allions parler ?
Du scotch, vous avez dit.
Bien sûr. Il n'y a qu'un seul whisky digne de ce nom, et c'est... Comment vous appelez-vous, jeune homme ?
Dragouzani. Boris Dragouzani. Je suis né dans cette région.
Et c'est pour cette raison que vous vous intéressez à son histoire ?
Je ne sais pas pourquoi, mais je n'en crois rien.
Vous ne seriez pas envoyé par des étrangers, dites-moi ? Des Américains, par exemple ?
Bien au contraire, non. Car je sais que vous avez eu des ennuis avec des étrangers. Mais je ne vous mentirai pas, Ladislao Jireski. Mon intérêt est probablement de la même nature que l'était le leur. C'est le bibliothécaire de Pitesti qui m'a donné votre adresse.
Ah, vraiment ? Ma foi, il sait très bien que j'accepte ou non de recevoir. Aussi, vos références sont probablement exactes. Mais je veux l'entendre de votre bouche et ne me cacher rien. À quoi vous intéressez-vous au juste ?
Entendu. Je veux tout savoir sur les vampires. L'autre le fixa fixement et ne sembla pas du tout surpris.
Dracula, vous voulez dire ?
Non, je veux parler des vrais vampires. Le vampire de la légende de Transylvanie, le culte des Vampiri. Jireski sursauta, grimaça de nouveau comme sa mauvaise épaule se crispait, se pencha légèrement en avant et agrippa le bras de Dragouzani. Il respira péniblement pendant un moment, puis il dit
« Vraiment, les vampires. Ma foi, peut-être que je vais vous parler. Oui, et j'accepterai volontiers un verre de whisky. Mais d'abord, dites-moi une chose. Vous avez dit que vous vouliez tout savoir sur le vrai vampire, sur la légende. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas plutôt dire le mythe ? Répondez-moi, Dragouzani, vous croyez aux vampires ? »
Dragouzani le regarda. Jireski l'observait intensément tandis qu'il attendait, retenant presque son souffle, et quelque chose lui dit qu'il tenait le vieil érudit.
« Oh oui, j'y crois. Absolument. Alors vous êtes le bienvenu, monsieur Dragouzani. Entrez, entrez. Nous allons parler. »
La maison de Jireski pouvait paraître délabrée, vue de l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle était aussi propre et bien rangée que pouvait l'être une maison occupée par un invalide solitaire. Dragozani fut agréablement surpris par l'impression d'ordre qu'il ressentait tandis qu'il suivait son hôte dans une succession de pièces aux lambris de chêne posées par des artisans locaux ou des tapis à motifs confectionnés selon la vieille tradition slave empêchaient les pieds de glisser sur un plancher en pin poli par les années. Bien que rustique, la maison était chaleureuse et accueillante à certains égards, mais à d'autres. Le penchant de Jireski, son violon dingue, ou plutôt son obsession dévorante, était manifeste dans toutes les pièces. Il saturait l'atmosphère de la maison, exactement comme les sarcophages de momies évoquent dans un musée les vastes étendues de sable chargées de mystères très anciens. Sauf qu'ici, les images évoquées étaient celles de cols de montagnes lugubres et de fierté farouche, de déserts glacés et de solitudes douloureuses, de guerres interminables qui s'étaient succédées sans fin, de sang et de cruautés incroyables. Les pièces faisaient littéralement revivre l'ancienne Roumanie. C'était la Valachie elle-même. Les murs de l'une des pièces étaient couverts d'armes anciennes, d'épées et de pièces d'armure. Ici, il y avait une arquebuse du début du XVIe siècle et là, une pique barbelée. Un boulet de canon noir et alvéolé provenant d'un petit canon turc maintenait une porte ouverte. Et une paire de cimetières turques richement ouvragées décoraient le mur au-dessus de l'âtre. Il y avait des haches d'aspect redoutable, des masses d'armes et des fléaux, et une cuirasse rouillée, toute cabossée, dont le plastron était à moitié fendu. Le mur du couloir qui séparait la pièce principale de la cuisine et des chambres disparaissait sous des gravures encadrées, des portraits, des infâmes princes, Vlad, des arbres généalogiques, des familles des boyards. Il y avait également des armoiries et des blasons de famille, des cartes de bataille compliquées, des croquis, de fortifications à demi écroulées, de tumulus, de murets en terre, de châteaux et de donjons en ruine. Et des livres. De multiples rayonnages entièrement recouverts de livres, la plupart en mauvais état, dont beaucoup d'une valeur inestimable, manifestement, mais tous sauvés par Jireski qui les avait récupérés un peu partout au fil des années, dans des ventes aux enchères, des vieilles librairies et des magasins d'antiquités. Ou dans des domaines réduits à la pauvreté et à la ruine en même temps que leurs propriétaires, des aristocrates jadis puissants. Le moins que l'on pouvait dire, c'était que la maison ressemblait à une véritable petit musée, et que Jireski en était l'unique gardien et conservateur. Cet arquebuse doit valoir une petite fortune. Pour un musée ou un collectionneur, peut-être. Je ne me suis jamais penché sur la question de la valeur, mais que pensez-vous de cette arme ? Il tendit à Dragozani une arbalète. Dragozani la prit et la soupousa dans sa main, puis fronça les sourcils. L'arme était moderne, lourde, probablement aussi précise qu'un fusil, et sans aucun doute meurtrière. Le détail intéressant, c'est que son carreau était en bois, probablement en bois de Gaillac, et muni d'une pointe en acier poli. Qui plus est, l'arbalète était chargée. Elle ne va pas du tout avec vos autres vieilleries. Oh, détrompez-vous. Mes autres vieilleries, comme vous dites, révèlent ce qui a existé, ce qui existe peut-être encore aujourd'hui. Cette arbalète est ma réponse à ça. Une arme de dissuasion, une arme contre tout ça. Un pieu de bois enfoncé dans le cœur, hein ? Et vous traqueriez réellement un vampire avec cette arbalète ? Rien de si stupide. Celui qui cherche à traquer un vampire est un fou. Je ne suis qu'un vieil original. En chasser un ? Jamais. Et si un vampire décidait de s'en prendre à moi ? Appelez cela de l'autoprotection, si vous voulez. En tout cas, je me sens plus tranquille avec cette arbalète sous la main. Mais pourquoi auriez-vous peur d'une telle chose ? Je veux dire, très bien, je suis d'accord avec vous sur le fait que de telles créatures ont existé et existent toujours peut-être, mais pourquoi l'une d'entre elles s'en prendrait à vous ? Si vous étiez un agent secret, seriez-vous tranquille ? Vous sentiriez-vous en sécurité, sachant qu'un profane est au courant de vos activités, de vos secrets ? Bien sûr que non. Quant aux vampiries, certes, je pense que le risque est probablement infime, mais il y a 20 ans, quand j'ai acheté cette arme, je n'en étais pas aussi sûr. J'avais vu quelque chose qui restera gravé en moi jusqu'à la fin de ma vie. De telles créatures avaient existé, oui, et j'apprenais à les connaître. Et plus j'étudiais leurs légendes, leurs histoires, plus elles devenaient monstrueuses. À cette époque, je ne pouvais pas dormir parce que je faisais des cauchemars. Acheter cette arbalète revenait à s'y flotter dans le noir, je suppose. Elle n'éloignerait peut-être pas les forces des ténèbres, mais au moins elle leur ferait savoir que je n'avais pas peur d'elle. Alors que vous en aviez peur. Maintenant, eh bien, je suis toujours là, en vie, après toutes ces années.
Il ne m'est rien arrivé, non. C'est pourquoi, à présent, je pense qu'ils sont peut-être éteints, tout compte fait. Non, ils ont existé. Si quelqu'un le sait, c'est bien moi. Mais peut-être que le dernier d'entre eux est parti pour toujours. Je l'espère, en tout cas. Et vous, qu'en dites-vous, Dragozani?
Je dis, gardez votre arbalète, Ladislao Jireski, et entretenez-la soigneusement. Faites également attention aux personnes que vous invitez dans votre maison. Il chercha dans sa poche intérieure un paquet de cigarettes et se raidit brusquement tandis que Jireski pointait l'arbalète sur son cœur, à moins de 2 mètres de distance, et ôtait le cran de sécurité.
Mais je fais attention. Apparemment, nous connaissons beaucoup de choses, vous et moi. Je sais pourquoi j'y crois, moi, mais qu'en est-il de vous?
Sous sa veste, Dragozani sortit doucement son pistolet de l'étui placé sous son aisselle.
Un inconnu à la recherche d'une légende, apparemment. Mais un inconnu si instruit.
Dragozani haussa les épaules, assura sa prise sur la crosse de son arme et commença à faire pivoter le canon vers Jireski tout en se tournant légèrement vers la droite. Jireski était peut-être fou. Dommage. Tout comme il était dommage que la balle fasse un trou dans sa veste et que la poudre brûle la doublure, mais... Jireski remit le cran de sûreté de l'arbalète et la posa sur une petite table.
Bien trop calme pour un vampire confronté à un pieu de bois. Et puis, vous savez, la pression sur ce carreau de bois est réglée pour transpercer un homme, mais pas pour le traverser de part en part et ressortir par le dos. Cela ne servirait à rien. C'est seulement quand le pieu est en place que la créature est vraiment immobilisée et... Soudain, ses yeux s'agrandirent et il resta bouche bée.
Blême, Dragozani avait sorti son pistolet. Il mit le cran de sûreté et le posa sur la table à côté de l'arbalète.
La pression sur ceci est suffisante pour faire exploser votre cœur et le projeter à travers votre colonne vertébrale. J'ai également remarqué les miroirs sur les murs du couloir et la façon dont vous les avez regardés comme je passais devant. Beaucoup trop de miroirs, me suis-je dit. Et le crucifix sur la porte, sans doute en portez-vous un autour du cou, comme si cela pouvait servir à quelque chose. Alors, suis-je un vampire, vieil homme?
Je ne suis pas certain de ce que vous êtes. Mais un vampire, non, pas vous. Vous êtes arrivé ici en plein soleil, après tout. Mais réfléchissez un instant. Un homme vient me voir et demande des renseignements sur les vampires. Il connaît même ce nom, vampire, que très peu de gens dans le monde entier connaissent, sinon personne. À ma place, seriez-vous pas méfiant?
Eh bien, votre méfiance a failli vous coûter la vie. Aussi, avant que nous allions plus loin, avez-vous d'autres tours dans votre sac?
Non. Non. Je pense que nous nous comprenons à présent. Bon, restons-en là pour le moment, et voyons un peu ce que vous avez d'autre dans votre filet à provisions.
Il prit ce dernier de la main de Dragozani et fit signe à son hôte de s'asseoir à une grande table, près de la fenêtre ouverte.
Le whisky est pour vous. Le reste, c'était mon déjeuner, si ce n'est que je ne suis plus très sûr d'avoir faim. Votre arbalète m'a coupé l'appétit. Bien sûr que vous avez faim. Quoi, du fromage en guise de déjeuner? Non, il n'en est pas question. J'ai des bécasses au four, elles seront prêtes dans un moment. Une recette grecque. Délicieux. Un whisky en apéritif, du pain pour saucer le gras des oiseaux, du fromage pour terminer. Parfait. Un excellent déjeuner. Et pendant que nous mangeons... Je vous raconterai mon histoire, Dragozani.
Celui-ci s'autorisa à se calmer, accepta le verre que Jireski avait sorti d'un vieux vaisselier en chêne et le laissa lui verser une dose généreuse de whisky. Puis Jireski alla dans la cuisine en boitillant où il resta un moment. Bientôt, Dragozani se mit à humer l'air tandis que l'agréable odeur de viande rôtie envahissait lentement la pièce. Le vieil homme avait dit vrai, c'était délicieux. Un instant plus tard, celui-ci revint apportant un plateau du four fumant et demanda à Dragozani de prendre des assiettes dans un tiroir. Il fit tomber 2 petits volatiles dans l'assiette de son invité, un seul dans la sienne. Il y avait également des pommes de terre en robe des champs, et Dragozani se vit encore une fois accorder la part du lion. Impressionné par la générosité de Jireski, il dit
« Ce n'est pas très équitable. Je bois votre whisky, alors vous pouvez manger mes oiseaux. De toute façon, je peux en tirer autant que je veux, juste depuis cette fenêtre. » Ils sont faciles à avoir, mais le whisky est plus difficile à trouver. Croyez-moi, je suis gagnant dans l'affaire.
Ils commencèrent à manger et entre 2 bouchées, Jireski entreprit de raconter son histoire.
C'était pendant la guerre. Quand j'étais gosse, je me suis blessé très gravement au dos et à l'épaule, ce qui a réglé la question de mon avenir en tant que soldat. Mais je voulais faire ma part, alors je me suis engagé dans la défense passive. La défense passive,
aller à Ploiesti encore aujourd'hui après toutes ces années et prononcer cette expression. Ploiesti a brûlé nuit après nuit. Elle a brûlé, Dragozani. Comment peut-on défendre quoi que ce soit quand il pleut des bombes ? Alors j'ai simplement couru dans tous les sens avec des centaines d'autres, dégageant des corps d'immeubles en flammes détruits par les bombes. Certains étaient encore vivants, mais la plupart ne l'étaient plus, et pour d'autres, il aurait mieux valu qu'ils soient morts. Mais c'est incroyable avec quelle rapidité on s'y habitue. J'étais très jeune, et à cet âge, on s'habitue encore plus vite. On a du ressort alors. Vous savez, à la fin, tout ce sang, la souffrance, la mort, ne semblait plus avoir une grande importance. Ni pour moi, ni pour les autres qui faisaient le même travail. Vous le faites parce que c'est là. C'était comme escalader une montagne, excepté qu'on n'arrivait jamais au sommet. Alors on continuait de courir dans tous les sens. Moi, courir. Vous m'imaginez courir. Mais à l'époque, j'avais mes deux jambes, vous comprenez. Et puis, il y a eu cette fameuse nuit où ça avait été vraiment moche. Enfin, c'était moche presque toutes les nuits, mais celle-là... En dehors de la ville, dans la direction de Bucarest, il y avait beaucoup de vieilles maisons. C'était les demeures de l'aristocratie de jadis, quand il y avait encore de vrais aristocrates. La plupart d'entre elles étaient délabrées parce que leurs propriétaires n'avaient plus l'argent nécessaire pour les entretenir. Oh, bien sûr, les gens qui y vivaient avaient encore de l'argent, des terres, mais pas beaucoup. Ils s'accrochaient, tombaient en décadence petit à petit, se délabraient en même temps que leurs vieilles demeures. Et cette nuit-là, c'est sur ces dernières qu'un chapelet de bombes est tombé. Je conduisais une ambulance, un 3 tonnes aménagé, en réalité, entre la ville et les faubourgs, où on avait installé des hôpitaux dans 2 des grandes maisons. Jusque-là, vous comprenez, la plupart des bombardements avaient touché le centre de la ville. Et quand ce chapelet de bombes est tombé, le camion a été projeté hors de la route et j'ai cru que j'allais crever et que j'étais fichu. Ensuite, voici ce qui s'est passé. Un instant auparavant, je roulais avec sur ma droite les vieilles maisons des riches dissimulées derrière de hauts murs, et les ciels à l'est et au sud rougis par le feu qui se reflétait sur les nuages. Et un instant d'après, c'était comme si l'enfer avait surgi de la terre elle-même. L'ambulance était vide, Dieu merci, car nous venions de terminer un voyage et d'amener une demi-douzaine de personnes grièvement blessées dans l'un des hôpitaux de fortune. Il n'y avait que moi et mon coéquipier. Nous rentrions à Ploiesti. Le camion choqué sur les vieilles routes pavées où des débris étaient entassés à chaque tournant, et puis les bombes sont arrivées. Elles se sont abattues sur les vieilles propriétés en grondant comme des démons fous furieux, projetant tout en l'air dans de grands éclairs de lumière aveuglante et des gerbes de feu rouge et jaune. Le spectacle aurait pu être d'une beauté grandiose si le résultat n'avait été d'une laideur infernale. Mais les bombes tombaient en ordre de marche, des pas pressés des soldats couvrant des distances gigantesques. 300 mètres plus loin, la première bombe tomba, derrière les propriétés privées. Un grondement sourd et une lueur soudaine, un jet volcanique de feu et de boue, et la terre qui tremblait sous mon camion roulant à toute allure. À 250 mètres, ce fut la tour de la deuxième qui projeta des arbres embrasés et de la terre vers le ciel au-dessus des toits. 200 mètres plus loin, une boule de feu s'éleva plus haut que les vieux murs de pierre, plus haut que les maisons elles-mêmes. Et chaque fois, la terre frissonnait de plus en plus fort et de plus en plus près. Et soudain, la maison, juste sur ma droite, située en retrait de la route, au bord d'une allée pavée, sembla faire un bond sur ses fondations. Et j'ai compris où la prochaine bombe allait tomber. Elle allait frapper la maison. Et après celle-là. J'avais vu juste, enfin presque. Durant une fraction de seconde, la silhouette de la maison se détacha, illuminée par derrière. Et la lumière était si vive qu'elle semblait briller à travers les murs. Et le reste transformant le vieux bâtiment délabré en un squelette de pierre. Au rez-de-chaussée, derrière une baie vitrée, il y avait quelqu'un qui agitait ses bras levés comme s'il était en proie à une grande et terrible colère. Puis, alors que la lueur de cette bombe-ci s'estompait et que des fragments de terre fumante pleuvaient dans la nuit, la suivante touche à la maison. C'est à ce moment-là que l'enfer s'est déchaîné, tandis que le toit était soufflé et que les murs explosaient et s'écroulaient en vomissant des flammes et de la fumée. La route devant moi sembla se recourber et se lever sur elle-même comme un serpent blessé, projetant des cailloux qui traversèrent mon pare-brise et ensuite... Tout s'est mis à tournoyer. L'ambulance ressemblait à un jouet dans le poing d'un enfant pris de folie, retourné et lancé de côté, hors de la route et en feu. Je suis resté inconscient pendant 2 secondes seulement, peut-être même moins. Peut-être était-ce juste l'effet de la commotion ou des nausées. Mais quand je revins à moi et m'extirpai du véhicule en flammes, il ne restait que quelques secondes avant l'impact. À peine quelques secondes et puis... Boum! Quant à mon coéquipier, l'homme qui était dans le camion avec moi, je ne connaissais même pas son nom. Doucy, je le connaissais, je l'ai oublié depuis. Je venais de le rencontrer ce soir-là, et quelques instants plus tard, je lui disais adieu au milieu de cet holocauste. Il y avait un nez crochu, c'est tout ce que je me rappelle. Je n'avais pas vu dans le camion quand j'étais sorti. S'il était toujours à l'intérieur, ma foi, c'était terminé pour lui. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai jamais revu. Les bombes continuaient à pleuvoir et j'étais là, frissonné, pitoyable, commotionné, vulnérable. Vous savez combien on peut être vulnérable quand on vient de perdre quelqu'un, même si on ne le connaissait pas. J'ai regardé vers la maison qui avait été touchée avant que la bombe tombe sur la route devant moi. Étonnamment, elle était toujours debout, du moins en partie. Les pièces du rez-de-chaussée avec la baie vitrée étaient toujours là, mais pas les fenêtres, juste la pièce, plus exactement la carcasse de la pièce. Mais tout le reste avait disparu et ne tarderait pas à partir en fumée. La maison était la proie des flammes. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu du personnage furieux que j'avais aperçu, se détachant sur cette baie vitrée qui agitait les bras avec colère. Si la pièce avait survécu, se pouvait-il que ce personnage soit toujours vivant, lui aussi? Je réagis comme par réflexe, le travail, la montagne inaccessible. Je courus vers la maison, et peut-être était-ce également l'instinct de conservation, car une bombe était déjà tombée sur cette maison. Cela semblait peu probable qu'une autre suive. Jusqu'à ce que l'attaque aérienne prenne fin, je serais aussi à l'abri là-bas que n'importe où ailleurs. Et dans l'état d'hébétitude qui était le mien, j'avais occulté le fait que la maison brûlait et que les lueurs de l'incendie seraient une balise pour la prochaine vague d'avions. J'arrivais à la maison sain et sauf. Jean-Jean Bell avait vitré fracassé. Et je trouvais l'homme en colère. Ou ce qu'il en restait. Ce qu'il aurait dû rester de lui, à savoir un cadavre, mais il n'en était rien. Je veux dire, l'état dans lequel il était... Eh bien, il aurait dû être mort, mais il ne l'était pas. C'était un mort vivant. Bon, Dragozani, j'ignore ce que vous savez au juste sur les vampires. Si vous êtes bien informé, alors ce que je vais vous dire maintenant ne devrait pas beaucoup vous surprendre. Mais moi, je ne savais rien de tout cela à cette époque. Aussi, ce que je vis, ce que j'entendis, tous ces moments, fut tout simplement terrifiant pour moi. Bien sûr, vous n'êtes pas le premier à entendre cette histoire, je l'ai racontée par la suite, ou je l'ai bredouillée des dizaines de fois. Mais j'hésitais chaque fois un peu plus à la raconter, sachant que si je le faisais, mon histoire serait accueillie avec le plus grand scepticisme, voire avec une incrédulité totale. Toutefois, comme cette rencontre fut le choc initial, celui qui déclencha ma quête, mes recherches, et oui, mon obsession, elle reste le souvenir le plus important de toute mon existence et je dois la relater. Même si j'ai réduit de façon drastique le nombre de mes auditeurs potentiels au cours des années, je dois néanmoins la relater. En fait, Dragozani, vous serez le premier à l'entendre depuis 7 ans. Le dernier était américain qui a voulu ensuite la réécrire et la publier comme une histoire vécue. En faire un livre à sensation et j'ai été obligé de le menacer avec un fusil de chasse pour qu'il change d'avis. Pour des raisons évidentes, je ne désire pas attirer l'attention sur moi et c'est exactement ce que son projet aurait fait. Bon, je vois que vous vous impatientez. Je continue. Tout d'abord, je ne vis rien dans cette pièce à part des débris et des dégâts. Je ne m'attendais vraiment pas à voir quoi que ce soit. Rien de vivant, en tout cas. Le plafond s'était effondré sur un côté, un mur avait été fendu et déjeté par l'explosion, et menaçait de céder. Les rayonnages de livres s'étaient renversés un peu partout, et des volumes étaient éparpillés sur le sol. Certains brûlaient, augmentant la fumée, les vapeurs et le chaos. L'odeur forte de la bombe imprégnait l'air, acre et suffocante. Et puis, il y eut ce gémissement. Dragozani, il y a des gémissements et gémissements. Gémissement d'un homme épuisé sur le point de s'écrouler et ceux d'une femme au moment de l'accouchement, ceux d'un être vivant avant que la mort l'emporte. Et puis il y a les gémissements des morts vivants. Je ne savais rien de cela alors, ils évoquaient tout simplement les affres de l'agonie, mais une telle agonie, une telle éternité de souffrance. Les gémissements venaient de derrière le vieux bureau renversé près de la baie vitrée fracassée où je me trouvais. J'escaladai les décombres, tirai le bureau pour le remettre sur ses pieds et l'éloigner du mur fendu. Là, entre l'endroit où le bureau avait été projeté par l'explosion et la plainte, un homme était étendu. À tous égards, il semblait s'agir d'un homme. De toute façon, comment aurais-je pu savoir qu'il en était autrement? Vous en jugerez par vous-même, mais le mot « homme » suffira pour le moment. Ses traits étaient imposants. Il aurait été très beau si son visage n'avait pas été déformé par la douleur. Grand également, un homme de haute taille et robuste. Mon Dieu, de quelle force il avait dû faire preuve! C'est ce que je pensais en voyant ses blessures. Aucun homme aussi grièvement blessé n'avait jamais survécu. Si lui y était parvenu, alors ça n'était pas un homme. Le plafond était constitué de poutres noircies par le temps, ce qui était très courant dans certaines de ces vieilles demeures. Là où il s'était effondré, une grosse poutre avait cédé et ses extrémités brisées étaient tombées. L'une d'elles, un grand éclat de pain rendu fragile par le temps, avait enfoncé sa pointe dans la poitrine de l'homme et l'avait traversé de part en part. Il s'était planté dans les lattes du plancher en dessous de lui, le clouant au sol comme un scarabée empalé sur le bout consumé d'une allumette. Cela aurait dû le tuer. N'importe qui d'autre aurait succombé, mais pas quelqu'un de son espèce. Pourtant, ce n'était pas tout. Quelque chose, le souffle de l'explosion probablement qui peut jouer certains tours étranges, avait lacéré ses vêtements sur le devant comme l'aurait fait une grande lame de rasoir. Il était nu depuis l'aine jusqu'à la cage thoracique, et ce n'était pas uniquement ses vêtements qui avaient été tailladés. Son ventre tout tremblant, une masse informe de nerfs sectionnés était ouvert en deux grands lambeaux de chair. Tous les viscères étaient visibles. Ses intestins étaient là, Dragozani. Il palpitait sous mes yeux horrifiés. Mais il n'était pas ce que je m'attendais à voir. Ça n'était pas les entrailles d'un homme ordinaire. Comment ? Je lis la question inscrite sur votre visage. Qu'est-ce qu'il raconte ? Vous demandez-vous. Des entrailles sont des entrailles, des intestins. Ce sont des tuyaux visqueux, des tubes enroulés, des conduits fumants. Des pains de viande aux formes bizarres, rouges, jaunes et violets. Des saucisses aux circonvolutions complexes et des vésicules humides. Oui, et toutes ces choses étaient effectivement là, à l'intérieur de son abdomen éclaté. Mais pas seulement, il y avait quelque chose d'autre. Je l'avais entrevu quand je l'avais découvert, cloué au sol de cette façon, et je m'étais dit que j'avais la perlue. En tout cas, nous nous étions vus simultanément, et après ce premier regard échangé, la chose à l'intérieur de lui avait semblé se dérober et disparaître derrière le reste de ses entrailles. Ou bien peut-être avais-je tout simplement imaginé que c'était là, n'est-ce pas ? Bon, quant à ce que je pensais avoir vu, représentez-vous une pieuvre ou une limace ? Mais très grosse, avec des tentacules enroulés autour des organes normaux du corps, concentrés dans la région du cœur ou derrière lui. Représentez-vous une énorme tumeur, mais mobile, dotée de sens. C'était là, ou peut-être pas, je l'ai probablement imaginé, c'est ce que je pensais. Mais ce qui était bien réel, c'était l'agonie de cet homme et ses horribles blessures, le fait que seul un miracle, sans doute, plus d'un en l'occurrence, l'avait maintenu en vie jusqu'à présent, et il semblait évident qu'il ne lui restait plus que quelques minutes, voire quelques secondes à vivre, car il était fichu, à n'en pas douter. Pourtant, il était conscient. Conscient, vous vous rendez compte? Essayez de vous représenter son supplice si vous le pouvez. Moi, je le pouvais. Et quand il me parla, je faillis m'évanouir de saisissement. Qu'il soit à même de penser, qu'il lui reste une quelconque capacité de penser de façon ordonnée, c'était inconcevable. Et pourtant, il conservait une certaine maîtrise de lui-même. Sa pomme d'Adam tressauta et se gonfla. Il chuchota « Enlevez-la, arrachez-la, la pointe de la poutre sortait-la de mon corps. » Je recouvrai mes esprits, ôtai ma veste et la posai délicatement sur ses intestins éclatés. C'était plus pour moi que pour lui, vous comprenez ? Je n'aurais rien pu faire avec ses entrailles exposées ainsi. Et puis, j'ai saisi la poutre. Et je lui ai dit, cela ne servira à rien. Écoutez, cela va vous tuer sur le champ si je réussis à la sortir. Et je dis bien si, vous mourrez sur le champ. Je ne vous rendrai pas service si je vous racontais autre chose. Mais il est parvenu à hocher la tête et de me dire d'essayer tout de même. Alors j'essayais, mais impossible. Trois hommes ne seraient pas parvenus à déplacer la poutre. Elle était littéralement coincée en lui et dans les lattes du plancher. J'ai réussi à la bouger un peu, et quand je le fis, de gros morceaux de plâtre se détachèrent du plafond, et le mur bougea de façon inquiétante. Pire, une mare de sang apparut dans le creux de sa poitrine, à l'endroit où la poutre l'avait empalée. Sur ce, il se mit à gémir et à rouler des yeux d'une manière qui me fit grincer des dents, et son corps commença à tressauter sous ma veste comme si on lui avait envoyé une décharge électrique. Et ses pieds qui martelaient le sol dans un accès de douleur absolue. Mais quelque chose d'incroyable, ses mains tremblantes se levèrent, semblables à des serres pour saisir la poutre brisée là où elle le clouait au sol. Et il essaya d'ajouter sa force à la mienne, tandis que je m'efforçais de le délivrer. Nos efforts étaient vains et nous le savions tous les deux, et je lui dis, même si nous réussissons à la retirer, cela aurait pour seul résultat de faire s'écrouler le plafond sur vous. « Écoutez, j'ai du chloroforme. Je vais vous anesthésier pour que vous ne souffriez plus. Et je dois être franc avec vous, vous ne vous réveillerez pas. » Et il m'a répondu en suffoquant. « Non, pas de drogue. Je suis immunisé contre le chloroforme. De toute façon, il faut que je reste conscient, que je garde le contrôle.
Allez chercher de l'aide. Allez chercher d'autres hommes. Faites vite. Mais je me suis insurgé. Il n'y a personne. Qui pourrait-il y avoir par ici? S'il y a des gens à proximité, ils sont occupés à sauver leur propre vie, leur famille ou leurs biens. Tout le secteur avait été bombardé. Et au même moment, j'entendis le grondement des bombardiers et au loin le tonnerre d'une nouvelle vague d'explosion. Mais il s'est obstiné. Non, vous pouvez y arriver, je sais que vous en êtes capable. Trouvez de l'aide et revenez. Vous serez grassement payé pour cela, croyez-moi. Je ne vais pas mourir. Je vais m'accrocher, j'attendrai. Vous êtes ma seule chance. Vous ne pouvez pas me refuser cela. Il était désespéré. Et cela se comprenait, évidemment. Mais à présent, c'était à mon tour de connaître la souffrance, la frustration et de l'impuissance totale. Voir cet homme robuste, courageux, être condamné à mourir ici et maintenant dans cet endroit. Je regardais autour de moi et compris que je n'aurais pas le temps de trouver quelqu'un, que tout était fini. Ses yeux suivirent mon regard et virent les flammes au dehors qui léchaient la baie vitrée. La fumée devenait de plus en plus épaisse tandis que des livres brûlaient et mettaient le feu aux rayonnages tombés sur le sol. La fumée commençait à descendre en tourbillon du plafond à moitié effondré, lequel s'affaissait un peu plus et provoquait une averse de poussière et de morceaux de plâtre. Je l'ai entendu s'exprimer « Je vais brûler !» Un instant, ses yeux s'agrandirent et brillèrent de peur, puis une étrange expression de résignation paisible se lit en eux. « C'est la fin !» il m'a dit. J'ai voulu prendre sa main, mais il la repoussa. Et une fois encore, il marmonna « La fin, après tous ces longs siècles. » Désirant apaiser ces derniers instants du mieux que je le pouvais, je répondis « De toute façon, c'était la fin. Vos blessures, vous le saviez certainement. Vos souffrances étaient si grandes que vous avez dépassé le seuil de la douleur. Vous ne les sentez plus. Au moins, ce supplice vous aura-t-il été épargné. Vous devez en être soulagé. » Et à ces mots, il me regarda et je vis du mépris dans ses yeux. Mes blessures. Mes souffrances. Il avait un rire sec et amer, dédaigneux. Quand je portais les aumes du dragon, une lance a traversé ma visière et m'a brisé l'arête du nez, transpercé, fracassé l'arrière du crâne. Là, j'ai connu la douleur. La douleur, oui, car c'est une partie de moi, mon vrai moi, avait été blessée. C'était à Silistrie. Nous avions écrasé l'ennemi ottoman. Je connais la douleur, mon ami. Nous sommes de vieilles, de très vieilles connaissances, la douleur et moi. En 1204, à Constantinople, il y avait eu le feu grégeois. J'avais rejoint la quatrième croisade à Zadar en tant que mercenaire et en guise de récompense, j'ai été brûlé à l'apogée de notre triomphe. Ah, mais nous leur avons fait payer très cher. 3 jours durant, nous avons pillé, violé, massacré. Et malgré mes souffrances, à moitié rongées, brûlées presque jusqu'au plus profond de mon être, j'ai été le plus grand tueur de tous. La chair humaine était racornée, mais le vampire vivait toujours. Et me voilà maintenant, mutilé, cloué ici, où les flammes vont me trouver et mettre un terme à mon existence. Le feu grégeois s'est finalement éteint, mais il n'en sera pas de même pour celui-ci. De la souffrance humaine et de l'agonie, je ne sais rien et je m'en moque. Mais la douleur du vampire, empalé, brûlé, hurlant dans les flammes et se consumant à petit feu, non, cela ne doit pas se produire. Elles ont été ses paroles autant que je m'en souvienne. J'ai pensé qu'il délirait. Peut-être était-ce un historien, un érudit à coup sûr. Mais déjà les flammes bondissaient et la chaleur devenait insupportable. Je ne pouvais pas rester avec lui, mais il m'était impossible de l'abandonner, pas tant qu'il était conscient. J'ai sorti un tampon de doigt et un petit flacon de chloroforme. Il a vu ce que je m'apprêtais à faire et fit sauter de ma main le flacon débouché. Son contenu se renversa et se consuma dans les flammes bleues en un instant. Imbécile! Vous auriez uniquement émoussé la partie humaine. La chaleur qui imprégnait mes vêtements devenait de plus en plus insupportable et de petites langues de feu parcouraient la plainte. C'était à peine si je pouvais respirer. Incapable de l'abandonner à son sort, je m'écriai alors « Pourquoi ne mourrez-vous pas? Pour l'amour de Dieu, abandonnez-vous à la mort !» Dieu. Ah, pas de paix pour moi dans son royaume, même si j'y croyais. Pas de place pour moi dans votre paradis, mon ami. Sur le sol, parmi d'autres débris, provenant du bureau, il y avait un coupe-papier. L'un des tranchants de la lame était très affilé. Je le ramassai et m'approchai de l'homme. Ma cible serait sa gorge. Je le tracherai d'une oreille à l'autre. Ce fut comme s'il lisait dans mes pensées. « Cela ne suffira pas, me dit-il. Il faut que ça soit toute la tête. » Décontenancé, je m'exclamai « Qu'est-ce que vous racontez ?» Alors il me regarda droit dans les yeux et me dit « Venez ici ». Il m'était impossible de refuser. Je me penchai vers lui, le regardai fixement et lui tendis le coupe-papier. Il le prit et le lança au loin. « Maintenant, nous allons le faire à ma façon, la seule façon sûre. » Je le regardai dans les yeux et fus incapable de détacher mon regard du sien. Ses yeux étaient magnétiques. S'il n'avait rien dit et s'était contenté de me captiver avec ses yeux, je serais resté là et j'aurais brûlé avec lui. J'en étais conscient alors que je le suis maintenant. Utile et écrasé comme un poisson que l'on s'apprête à vider, il conservait néanmoins ce pouvoir. Allez dans la cuisine. Prenez un couperet, le gros, et apportez-le. Ses paroles libérèrent mes membres, mais ses yeux, non, son esprit, demeura fixé au mien. J'obtempérai, me frayant un chemin à travers la fumée de plus en plus envahissante et les flammes, et je revins. Je lui montrai le couperet, et il acquiesça d'un air satisfait. La pièce flambait à nouveau à présent et la surface de mes vêtements commençait à fumer. Je sentais que mes cheveux se mettaient à roussir et à se recroqueviller. « Votre récompense. » Choqué, je lui répondis « Je ne veux pas de récompense. » Mais il insista. « Je tiens à ce que vous en ayez une. Je tiens à ce que vous sachiez qui vous avait détruit cette nuit. » Ma chemise déchirée là au col. Je m'exécutai. Penché sur lui, il me sembla durant un instant que quelque chose d'autre que sa langue bougeait dans la cavité en partie ouverte de sa bouche. Son souffle sur mon visage était pestilentiel. J'avais envie de détourner la tête, mais ses yeux me retinrent jusqu'à ce que le travail soit terminé. Et à son cou, sur une chaîne en or, je trouvai un gros médaillon, lui aussi en or. Je défis le fermoir, pris le médaillon et le plaçai dans ma poche. Voilà, le paiement, dans sa totalité. À présent, finissons-en. Je levai le couperet d'une main tremblante, mais soudain il s'exclama « Attendez, écoutez, je suis très tenté de vous tuer. C'est ce que l'on pourrait appeler l'instinct de conservation qui est très fort chez les vampiriques. Et je sais qu'il s'agit là d'un espoir illusoire. La mort que vous offrez sera pure et miséricordieuse contrairement aux flammes qui consumeraient mon être avec une lenteur insoutenable. Et pourtant je pourrais vous frapper avant que vous ne me frappiez, voire au moment même où vous abaisserez le couperet. Alors nous disparaîtrions tous deux de la façon la plus horrible qui soit. Aussi, attendez pour asséner le coup fatal que j'ai fermé les yeux. Ensuite, frappez de toutes vos forces et sans hésiter et fuyez immédiatement. Vous avez compris ? J'acquiesçai. Il ferma les yeux et je frappai. À l'instant où la lame droite brillante mordit dans son cou avant même qu'elle le traverse complètement et que la tête soit tranchée, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Mais il m'avait mis en garde et je n'avais pas oublié. Comme sa tête se détachait et que du sang giclait de son corps, je m'écartai d'un bond. La tête tomba sur le sol, roula et s'immobilisa parmi les livres embrasés. Mais que Dieu m'en soit témoin, je jure que tandis qu'elle volait en l'air, quel que soit l'angle, ses yeux horribles continuaient à se mouvoir pour me poursuivre. Sans oublier la bouche. La bouche et ce qu'elle contenait, cette langue fourchue semblable à celle d'un serpent, qui se faisait menaçante et ondulée sur des lèvres exsangues, passant en un instant du rouge vif à un blanc livide. Tout aussi épouvantable, voire pire, la tête elle-même avait changé. La peau semblait s'être tendue sur le crâne, lequel à son tour s'allongea, ressemblant à celui d'un gros chien ou d'un loup. Les yeux, regard furieux, auparavant brun, avaient pris la couleur du sang. Les dents du dessus s'étaient refermées sur la lèvre inférieure, prenant en piège la langue fourchue écarlate, et les grandes incisives étaient recourbées et aussi acérées que des aiguilles. C'est la vérité, j'ai vu tout cela, je l'ai vraiment vu. Mais juste un instant, avant que la tête commence à se décomposer rapidement. C'était la chaleur, c'était uniquement pour cette raison que la chair se couvrait de cloques et se dissolvait. Pourtant, l'horreur de cette scène me fit m'en écarter en chancelant. Je chancelai, puis je bondis et m'éloignai de cette tête étrangère au regard furieux qui pourrissait, mais aussi de son corps décapité dans lequel avait désormais commencé la plus horrible des agitations. Une agitation qui s'accompagnait d'un affaissement. Vous vous rappelez certainement que j'avais posé ma veste sur ses intestins exposés. À présent, la veste était sous l'emprise d'une force invisible qui se trouvait en dessous. Elle fut déchirée, arrachée et lancée violemment en deux morceaux vers le plafond. Et juste après, se dressant frénétiquement, un tentacule effilé de chair lépreuse jaillit du ventre du cadavre et se tordit, se contorsionna de façon hideuse. Semblable à un fouet démoniaque, il a cinglé l'air de la pièce et se mit à siluer à travers la fumée et les flammes comme s'il cherchait quelque chose. Alors que le tentacule retombait sur le sol et entreprenait un examen systématique, voire spasmodique, de la pièce embrasée, reculant seulement devant les flammes elles-mêmes,
Je montai sur une chaise et me blottis là, pétrifié de terreur. Depuis ma position légèrement surélevée, je vis que ce qui restait du cadavre s'affaissait sur lui-même et se putréfiait, ne laissant bientôt plus derrière lui que des os desquels la chair se détachait, et enfin, de la poussière. Dans le même temps, le tentacule devint lourd comme du plomb et se rétracta, revint vers l'endroit où le corps de son hôte avait été étendu, vers la poussière et les derniers vestiges de ses os séculaires en train de s'effriter. Tout cela se produisit en quelques instants, vous comprenez. Bien plus vite que je ne saurais le raconter. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, je ne pourrai jurer sur son âme que je l'ai vue. Je peux uniquement dire que je crois l'avoir vue. Quoi qu'il en soit, ce fut à ce moment-là que le plafond acheva de s'effondrer et me fit tomber de ma chaise. Et toute la pièce où cette horreur avait eu lieu fut la proie des flammes et fit disparaître ce qu'il en restait. Mais alors que je sortais de la maison en chancelant, ne me demandez pas comment je parvins à retrouver dans l'air de la nuit que d'ailleurs pestait. S'éleva de cet enfer un long cri de souffrance intense, une plainte impitoyable, terrifiante et empreinte d'une rage féroce, comme je n'en avais encore jamais entendu et comme j'espère ne plus jamais en entendre. Ensuite, le ciel déversa un nouveau chapelet de bombes et je me souviens de rien d'autre après ça, jusqu'à ce que je reprenne connaissance dans l'hôpital de campagne. J'avais perdu une jambe et, ainsi qu'on me le dit par la suite, une partie de ma raison. La commotion due au bombardement, bien sûr, lorsque je compris qu'il serait peine perdue d'essayer de leur dire que la cause était tout autre. Je décidai tout simplement de ne pas insister. Ma raison, comme mon corps, avait simplement été victime du bombardement. Mais parmi les affaires que l'on me rendit lorsque je fus autorisé à sortir, il y avait quelque chose qui racontait l'histoire véritable, et je l'ai toujours en ma possession.